Il est 12h. Le journal du midi. Mel Emmanuel.
Il est 14h en Corse et 12h en Côte d'Ivoire comme en temps universel. Vous êtes bien au rendez-vous de l'information sur Radio de la Paix. La protection des lanceurs d'alerte et l'instruction sur leur utilité étaient au cœur d'un atelier organisé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Les résultats du baccalauréat 2024 sont connus depuis hier. À Daloa, le taux de réussite s'élève à 19,75%, ce qui est largement en deçà du taux national. Hors de nos frontières, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, soutient que le retrait des États de l'AES, de la CEDEAO, est irréversible. Et avec l'invité de la rédaction, nous refermerons ce journal. Docteur Assouaga Laurent, maître de conférence en histoire, se prononcera sur les missions de la force antiterroriste régionale qu'envisage déployer la CEDEAO. Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal avec un atelier organisé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance hier lundi en vue de l'adoption d'une loi visant à assurer la protection des lanceurs d'alerte afin de faire correspondre le processus de protection actuel aux recommandations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Au cours de cet atelier, le terme lanceur d'alerte a été clairement défini. On en sait plus avec Christelle Yesso.
Sur le cadre de cet atelier, Yao Daniel, membre du Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, nous situe.
C'est une initiative en vue de susciter les mesures citoyennes pour que les individus puissent dénoncer tout ce qui va dans ce sens.
Kodjo Atiso, coordonnateur régional de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime, précise qui peut être considéré comme lanceur d'alerte.
Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui, dans le cadre de son travail, des irrégularités ou des cas de corruption et qui fait des signalements aux autorités compétentes. Vous avez les membres des ONG ou de la société civile, des gens qui ne sont pas dans l'administration mais qui arrivent aussi à faire des signalements.
Les journalistes, en tant que diffuseurs d'informations, étaient aussi représentés à cet atelier. Seriba Koné, président des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire.
Quand on parle d'alerte, on parle de nous aussi. Parce que quand on finit une enquête, par exemple, avant de la lancer, vous faites une alerte, la dénonciation, bon, ce sont des choses qu'on fait nous-mêmes en tant que journalistes. Donc l'un dans l'autre, on est véritablement impliqué dans cette loi.
Cet atelier se veut être un cadre d'échange, de renforcement du processus de protection des dénonciateurs en Côte d'Ivoire.
Il faut reconnaître que la loi qui porte sur les dénonciateurs, les témoins et autres constitue un cadre, mais elle n'est pas suffisante pour prendre en compte la protection des lanceurs d'alerte telle qu'envisagée par la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Les résultats de cet atelier seront transmis au gouvernement en vue d'une protection accrue des lanceurs d'alerte.
Financement de la stratégie nationale de développement de la filière riz SNDR 2024-2030. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé hier lundi à Abidjan une table ronde des partenaires techniques et financiers internationaux. Organisée par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, l'objectif était de partager les priorités du gouvernement ivoirien en matière de sécurité alimentaire, notamment la couverture des besoins nationaux en riz blanchi tels que planifiés dans la SNDR2 afin de mobiliser toutes les parties prenantes pour le financement et la mise en œuvre de son plan d'action 2024-2030. Jean-Claude Mabéa.
La Côte d'Ivoire veut assurer la couverture de ses besoins de consommation par la production nationale de riz blanchi de bonne qualité, constituer les stocks de sécurité et exporter le surplus à travers la stratégie nationale de développement de la filière riz, selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières. Kobinan Kwasi Adjoumani.
Le financement de la SNDR 2024-2030 et sa mise en œuvre effective contribueront à faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière de souveraineté alimentaire à travers la couverture totale des besoins nationaux en riz de bonne qualité, en quantité suffisante et à des prix accessibles à partir de la production locale.
La dizaine de partenaires techniques et financiers a réitéré sa volonté d'appuyer la SNDR 2024-2030, a fait savoir le vice-président du groupe de la Banque mondiale, Ousmane Diagana.
Notre institution est prête à soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'ensemble des partenaires pour renforcer la sécurité alimentaire. Nous saluons le plan du gouvernement visant à atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2027.
Aux partenaires techniques et financiers, le Premier ministre a dit ceci. Robert Begremombe.
Les résultats de la SNDE 2024-2030 feront l'objet de revues périodiques au cours des comités interministériels des matières premières que je vais présider moi-même.
Le financement de la SNDR 2 est estimé à 798 milliards de francs CFA, dont 331 milliards dans sa première phase prévue de 2024 à 2027.
On s'intéresse aux enfants dans ce journal. En ce qui concerne le dialogue des enfants et adolescents avec les décideurs au niveau local et national, il est jugé insuffisant. C'est entre autres ce qui ressort de l'atelier de présentation des résultats de l'évaluation de la participation des enfants dans les instances de prise de décision tenues jeudi dernier à Abidjan. La substance de cette rencontre initiée par la plateforme nationale des organisations et associations des enfants en Côte d'Ivoire avec Sonia Ndian.
Le fait que les adultes voient les enfants comme des personnes limitées qui n'ont pas un esprit assez ouvert constitue un défi pour les enfants.
Propos de Denis Marc-Eliel, coordonnateur de la plateforme nationale des organisations et associations d'enfants de Côte d'Ivoire. Il estime qu'il faudrait soutenir leur capacité à impacter le pays.
On veut que les enfants soient intégrés dans le processus de prise de décision parce qu'ils ont leur mot à dire sur les différentes questions qui les concernent. On félicite l'État de Côte d'Ivoire parce que dans ces différents programmes, ils essaient tant bien que mal d'intégrer les enfants pour permettre leur participation. Mais il faudra que cette participation soit effective.
Le sénateur Michel-Benoît Kofi dit être prêt à soutenir les enfants dans leur quête, mais se veut réaliste.
L'enfant, même s'il a besoin d'apprendre, mais il a aussi surtout besoin qu'on tienne compte de son point de vue. Mais le dernier mot doit revenir à l'adulte pour mieux l'orienter pour son intégration plus tard dans la vie active.
Représentant le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Traoré Bintou a rassuré sur la volonté de son département quant à l'implication effective des enfants dans les prises de décision.
Très bientôt, il y a la conférence mondiale ministérielle de lutte contre la violence à l'égard des enfants au Mexique. Mais déjà en Côte d'Ivoire ici, ils auront leur mot à dire. Et c'est ce qu'ils diront comme différentes préoccupations que les autorités vont travailler pour sortir la déclaration que Madame le ministre sera amenée à faire à cette conférence.
Selon les statistiques, enfants et adolescents constituent plus de 50% de la population ivoirienne.
Partons à Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, où un guide de référence, d'alerte, de prévention et de gestion des conflits communautaires intégrant la dimension droits humains et genre a été élaboré la semaine dernière lors d'une conférence régionale à la préfecture de Bouna. Cet atelier de réflexion a été initié par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté de la région du Bounkani en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Jérôme Kouassi.
Ce guide de référence spécifique à la région inclut les modes traditionnels de maintien et de renforcement de la cohésion communautaire, explique le directeur de la prévention et de la gestion des conflits au ministère de la Cohésion nationale, le professeur Bamba Abdoulaye.
En mettant l'accent sur les mécanismes endogènes qu'on retrouve dans les traditions à Bouna qui permettent d'anticiper les conflits et en cas de survenance qui permettent de circonscrire, de les régler et de créer donc les conditions d'une cohésion sociale paisible pour toute la population vivant dans le Bounkani.
Le processus intègre la participation des femmes, ce qu'estime normal Dame Kambire Wila pour celles qui payent le lourd tribut lors des crises.
Le rôle de la femme est très important quand il y a des conflits. Elle souffre. Et puis quand son enfant s'en va dans ces situations, qu'il meurt ou qu'il est blessé, c'est encore la femme qui souffre.
Les jeunes doivent prendre conscience et prendre leur place accordée dans le processus d'alerte, de prévention et de gestion des conflits, lance comme appel aux jeunes, le président de l'Union de la Jeunesse, Kamara Lagiseidou.
Nous jeunes, il faut que nous nous mettions au travail, nous nous prenions au sérieux, pouvoir relever le défi, participer, anticiper, utiliser les moyens, les voies à suivre pour le règlement des conflits.
Ces activités se sont déroulées successivement dans les régions du Gon, du Kavali, des Grands Lacs, des Bekin et du Bounkani et vont s'étendre sur l'ensemble des régions du pays selon les organisateurs. Jérôme Kouassi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Après le nord-est, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire que nous posons nos valises. Depuis hier, les résultats du baccalauréat session 2024 sont connus. À Daloa, ils sont légèrement en baisse cette année par rapport au taux de réussite estimé à 19,75% l'année dernière, ce qui est par conséquent inférieur au taux national. Les candidats admis pour leur part réfléchissent à leur orientation. Compte rendu, Jean-Noël Kwame.
Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des présidents de jury que nous avons rencontrés.
Gondi Patrice, vice-président du centre Khalil. Nous avions 750 candidats. En série D, 102 admis, un taux de 22,81%. En série A, 280 inscrits, admis 10, un taux de 4,40%.
Mamadou Fofana, vice-président du centre du collège Espérance d'Aloa. On avait 700 candidats. Les admis, série A2, 52 sur 256. Ce qui fait 20,31%. En série D, 446 candidats, 51 admis, 11,43%. Sur les 700 candidats du centre, 13,73% d'admis. On n'est pas très satisfait, il ne faut pas désespérer.
Dans une ambiance un peu morose, quelques candidats admis évoquent leur projet après le baccalauréat.
Je suis très fier d'avoir le bac B. Ça fait la troisième année que je compte aller à l'université faire physique chimie.
J'ai eu le bac D. Si je vais à l'université, j'aimerais faire la science économie et gestion. Si ce n'est pas possible, je vais passer un concours.
J'ai fait la terminale D, ça n'a pas marché. J'ai fait la série A2 et j'ai validé. Après le bac, pour l'instant, je n'ai aucune D.
J'ai eu le bac D. Je compte aller à l'université pour être ingénieur en bâtiment.
Les statistiques générales provisoires de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Daloa indiquent un taux de réussite de 19,33% d'admis au baccalauréat 2023-2024. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Revenons à Abidjan pour parler d'infrastructures routières. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé à l'ouverture du poste de péage du 4e pont d'Abidjan le 1er juillet dernier. Cette ouverture suscite la réaction des usagers qui empruntent cet important édifice routier. Le point avec Jean-Mélène Bitti.
Le 4e pont d'Abidjan ouvert à la circulation le 10 janvier dernier a connu une nouvelle étape importante le 1er juillet 2024 avec l'ouverture officielle de son poste de péage. Sur le terrain, quelques usagers interrogés n'ont pas manqué de revenir sur l'utilité de cet ouvrage dans leur quotidien.
Voici Kwame Joseph. En effet, le 4e pont nous donne assez d'avantages en termes de temps, en termes de consommation de carburant. Donc on fait une économie et puis en termes de fatigue et d'environnement.
Sidi Bamba, je suis commerçant. Franchement dit, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir et puis ça me fait beaucoup gagner en temps. Parce que j'habite du Pougon, donc si j'ai coup ça fait à 13 villes, Makori, Poboué, je gagne plus en temps. Parce que sur l'autoroute, il y a toujours des bouchons. Et là, j'ai payé seulement que 500 francs et puis c'est parti.
Plus tôt, le 1er juillet 2024, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou a procédé à l'ouverture officielle du poste de péage.
Ça va faciliter les déplacements, surtout entre les communes de Yopougon, Atékoubé, Adjamé et le plateau. C'est vrai qu'il y a une seconde phase du projet qui va se poursuivre jusqu'aux sapeurs-pompiers. Mais en tout cas, nous sommes très 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 satisfaits.
Cet ouvrage long de plus de 6 km va faciliter les déplacements entre les communes de Yopougon, Adjamé, Atékoubé et Plateau. Les prix varient de 500 francs CFA à 3000 francs CFA selon les catégorie.
Crise dans le royaume Baoulé au centre de la Côte d'Ivoire. Accusé d'avoir pris parti dans la crise de succession qui sévit, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, CNRCT, a, dans une déclaration faite le dimanche à son siège à Yamoussoukro, fait connaître sa position. Un extrait de cette déclaration lu par Sa Majesté Nanan Amontano et Paul Désiré, président de cette institution au micro d'Emile Yao.
Certaines personnes accusent à tort la CNRCT d'être à l'origine de leur déconvenue pour avoir, disent-elles, reconnu comme reine des Baoulé, celle qu'elles appellent la reine mère Akwaboli II. Or, nous savons tous que dans tous les royaumes Akan, ce sont la cour royale et les instances dédiées et personne d'autre qui, selon les us et coutumes du royaume concerné, organise les successions au trône royal sacré et gère les questions y relatives. Et voilà pourquoi la réalité face à cette fausse accusation contre la CNRCT est toute simple. À sa casse. Lors des obsèques de Sa Majesté, Nana Kwaku Anoubouré III, roi de Baoulé. Le monde entier a appris par la voix du conseil du royaume Baoulé que le peuple Baoulé a une nouvelle reine. Sur cette base, la reine Ngatano Monique sera nommée membre du directoire de la CNRCT par décret jusqu'en 2023 avec tous les autres membres du directoire de la CNRCT.
À l'instant, le président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Nanan Amontanoué, Paul Désiré. Hors de nos frontières, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a maintenu que le départ de son pays, du Burkina Faso et du Niger, de la communauté des États ouest africains, était irréversible malgré la main tendue de la CEDEAO. Le Mali reste cependant ouvert à la coopération avec la CEDEAO, a dit Abdoulaye Diop hier soir sur la télévision d'État ORTM. Il s'est par ailleurs élevé contre l'instauration éventuelle de visas pour les ressortissants des trois pays voyageant dans l'espace CEDEAO. Le Mali, le Burkina et le Niger ont annoncé en janvier quitter l'organisation aux 15 États membres. Ils ont annoncé lors de leur propre sommet samedi dernier l'institution d'une confédération. Et nous revenons en Côte d'Ivoire avec l'invité de la rédaction. Sécurité dans l'espace ouest africain, la CEDEAO envisage une force antiterroriste régionale qui aura pour objectif de se déployer rapidement pour aider à reconquérir les bases terroristes dans les pays déjà touchés par ce phénomène. Et également, elle aura pour tâche d'empêcher la propagation du terrorisme du Sahel vers les pays côtiers. Sur la manière dont elle pourrait réussir sa mission, Dr Aswaga Laurent, maître de conférence en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, fait des suggestions dans cet entretien conduit par Soro Adams.
Bonjour Dr Aswaga.
Bonjour Monsieur Soro.
Que vous inspire aujourd'hui la situation sécuritaire dans le Sahel?
Il faut dire qu'après le premier coup d'État au Mali, consécutif à la ruée des djihadistes dans le nord du Mali, la situation dans le Sahel n'a fait que se détériorer parce qu'on a assisté à une forme de métastase du terrorisme qui, à la faveur de la chute du président libyen Muammar Kadhafi, s'est répandu un peu dans les trois pays du Sahel que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et toute cette situation est venue se greffer la ruée d'âmes venues des casernes de Kadhafi par le biais de la porosité des frontières. Et donc tout le Sahel a littéralement basculé dans le terrorisme. Donc je peux dire qu'en une décennie, ces États ont été fortement ébranlés par le terrorisme. Mais depuis les derniers coups d'État dans ces différents pays, il y a une forme de remobilisation de ces différentes armées pour lutter contre le terrorisme.
Mais comment voyez-vous l'avenir sécuritaire, s'entend?
L'avenir sécuritaire du Sahel, ma foi, laisse augurer de dures batailles à l'horizon. Dures batailles d'abord parce que au sein des différentes juntes militaires au Sahel, il y a plus ou moins des tensions rampantes sur les directions futures qu'il faut prendre. Parce qu'il y a une forme d'ambiguïté sur la redéfinition de l'alliance stratégique après le départ de la France. Mais finalement, c'est la ligne de Moscou qui a été épousée. Donc c'est tout un paquet sécuritaire que la Russie offre à ces différents États du Sahel. D'abord le matériel, ensuite des instructeurs et quelques supplétifs pour mener des opérations commando pour dégager un peu l'horizon pour permettre aux FAMA comme aux forces nigériennes ou burkinabè de progresser.
Mais que peut faire la CEDEAO dans cette impasse entre griffes sécuritaires au Sahel?
La CEDEAO a un rôle important et je dirais même la CEDEAO a un rôle multiforme parce qu'il serait puéril de penser que la réponse au terrorisme ne serait exclusivement que militaire. Monsieur Soro, vous conviendrez avec moi que toute la jeunesse du Sahel, désœuvrée, qui n'a pas un exutoire professionnel, est un appât pour les djihadistes, est un appât pour les terroristes. C'est vrai, la Russie aujourd'hui épaule ces différents États en armes pour essayer de reconquérir du terrain. Mais jamais les armes à elles seules ne viendront à bout du terrorisme. C'est sur ce plan que la CEDEAO doit alors voir sa réponse à donner pour reconquérir son lustre d'antan dans ces différents pays.
Mais ce n'est pas la grande unité en ce qui concerne la CEDEAO avec les trois pays du Sahel qui ont créé l'AES.
Moi, objectivement, je ne crois pas au retrait de ces trois pays de la CEDEAO. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des Guyanais, ils ont tourné dos à la CEDEAO, mais ils demeurent au sein de l'UEMOA. Pourquoi l'UEMOA? Parce que l'UEMOA, c'est l'Union monétaire ouest-africaine. Parce que ce soit les populations du Mali, les populations du Burkina Faso et celles du Niger, elles ne veulent pas du tout accepter qu'elles puissent être ces populations sujettes à des visas pour circuler en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans l'ensemble de la sous-région. Par contre, ce que moi je suggérerais à la CEDEAO, comme je l'ai dit, la lutte n'est pas que sécuritaire. Il faut allier maniement d'armes et investissement, ce que la Côte d'Ivoire a bien réussi au lendemain des attaques au nord du pays à Kafoulou. Vous voyez, le gouvernement ivoirien a déployé tout un filet social avec des investissements importants qui a détourné les jeunes du septentrion contre toute aventure djihadiste. Donc, la CEDEAO aussi peut, dans ses approches, essayer de voir comment avoir un fonds financier qu'on pourrait redéployer à travers des filets sociaux vers les jeunesses de ces différents pays.
Mais pourquoi avoir attendu tant de temps, parle de la CEDEAO, pour penser à s'organiser face au terrorisme?
On ne peut pas reprocher à la CEDEAO d'être ainsi inactive. Vous conviendrez avec moi que la MINUSCA, qui était l'opération destinée au Mali, et à la base des pays de la CEDEAO qui ont déployé des contingents pour aller soutenir le gouvernement malien. Et ce sont ces pays-là qui sont passés sous administration onusienne.
Docteur Aswanga, aujourd'hui, comment voyez-vous ce projet de force de la CEDEAO contre le terrorisme?
D'abord, le fait de projeter une force antiterroriste au niveau de la CEDEAO est une bonne chose parce que le terrorisme est rampant dans la région. Et les régimes du Sahel, même s'il y a eu des coups d'État, n'en demeurent pas moins que Bamako, Ouagadougou et Niamey constituent la première digue antiterroriste au niveau de la CEDEAO. Parce que si ces digues sautent, impérativement, les pays côtiers seront directement dans le feu de l'action.
Je vous remercie, docteur Aswanga.
Merci, M. Fouroua.
Vous venez d'écouter l'invité de la rédaction, Dr Aswanga Laurent, maître de conférence en histoire à l'université Félix Souffrit Boigny d'Abidjan. À présent, passons au rappel des titres de ce journal. La protection des lanceurs d'alerte et l'instruction sur leur utilité étaient au cœur d'un atelier organisé par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Et puis hors de nos frontières, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, soutient que le retrait des États de l'AES de la CEDEAO est irréversible. C'était un plaisir de vous présenter ce journal. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Aoussi Potin pour la revue de presse.
Bonjour à toutes et à tous. Les candidats à l'examen du baccalauréat de la session 2.